Regard de femmes, les mardis de l'été 2019 à Saint-Jean-de-Luz, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.
Femmes et journalistes dans les coulisses de l'Église, aujourd'hui nous écoutons l'intervention de Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de la chaîne de télévision catholique KTO TV. L'intervention de Philippine de Saint-Pierre est précédée du mot d'accueil de l'abbé Lionel Andard.
Je vous souhaite la bienvenue dans notre église de Saint-Jean-de-Luz pour une nouvelle conférence des mardis de l'été. Ce cycle cet été est intitulé « Regard de femmes » puisque, comme vous le savez certainement, il n'y a que des conférencières qui s'expriment devant nous cet été. Ce soir, nous avons le plaisir, la joie d'accueillir Philippine de Saint-Pierre, directrice générale et directrice des programmes de KTO TV. Vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, journaliste spécialisée en information religieuse depuis 1993. Vous avez notamment été au service d'une radio locale en Lorraine, puis rédactrice en chef de Radio Notre-Dame, Paris. Vous fondez en 1998 une agence de presse et de production qui s'appelle Théophile et qui a travaillé pour de nombreux médias chrétiens, des mouvements, des congrégations. Vous collaborez avec KTO TV, la chaîne d'évangélisation du diocèse de Paris depuis l'an 2000, pour la couverture des grands événements en direct et les commentaires des voyages du pape. C'est vrai que votre voix nous est familière. Lorsque nous écoutons les émissions qui sont les retransmissions des grands événements sur KTO TV, et vous faites partie de notre paysage sonore. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir en vous la directrice des programmes et la directrice générale de la chaîne de KTO TV depuis 2014 maintenant, ça fait 5 ans, c'est un beau chiffre. Et nous sommes surtout heureux de pouvoir vous avoir non seulement dans notre patrimoine auditif, mais désormais visuel, et de pouvoir vous regarder, nous présenter votre propre regard de femme sur le fait que vous êtes femme et journaliste et que vous allez nous parler, si j'ai bien compris, des coulisses de l'Église. C'est une intrigue qui nous intéresse beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup d'être avec nous, Philippine.
Merci. Merci pour ces mots gentils, merci pour votre accueil et pour votre invitation. C'est vrai que quand on évoque les coulisses, tout de suite, on se dit que ça va être très croustillant. Je ne suis pas sûre que ce soit le terme approprié. Mais en tout cas, je vais essayer de partager avec vous certaines choses. La première étant que quand l'abbé Landard m'a d'abord parlé de ces mardis de l'été confiés à des femmes, j'ai eu une petite réticence. Je crois que je suis assez violemment anti-féministe, du moins au sens où l'on entend le féminisme habituellement dans les médias aujourd'hui. Je m'en explique. Je suis pas féministe, et en tout cas dans l'Église, au sens de la revendication, et surtout pas, par exemple, de la revendication de l'accès des femmes à la prêtrise. Je ne suis pas membre et pas supportrice du comité de la jupe, qui a été créé après une plaisanterie du cardinal André 23 que personnellement j'ai trouvé très drôle et en plus très vrai. C'était en 2008 sur Radio Notre-Dame et le cardinal 23 était interrogé sur la question de savoir s'il ne devrait pas y avoir plus de femmes pour faire les lectures à la messe. Et le cardinal 23 a répondu, écoutez, sûrement, pourquoi pas, mais le tout n'est pas d'avoir une jupe, il faut avoir une tête bien faite et donc il faut se former. Alors ça a scandalisé certaines, et j'entends bien qu'on puisse être scandalisé ou mal réagir, parce que, et j'en parlerai aussi, il y a quand même dans notre Église parfois de vieux réflexes misogynes assez sérieusement implantés et qu'on doit pouvoir corriger avec le temps. Donc je comprends qu'on ait des réactions épidermiques de temps en temps, c'est le principe de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais en l'occurrence, moi j'ai trouvé cette répartie du cardinal 23 très juste, est très importante, parce qu'en fait, moi je suis très hostile à la parité obligatoire, au quota. À chaque fois qu'on m'appelle pour faire partie d'un conseil, d'une organisation, j'ai l'impression ces temps-ci que c'est parce qu'on avait besoin de rajouter une femme sur une liste, et je trouve ça extrêmement vexant. Alors c'est sûrement bon pour mon humilité, et donc ça me rapprochera, comme dit une de mes amies, ça rapprochera mon petit mouton de la crèche, tant mieux, mais ça reste extrêmement vexant, parce que je préfère qu'on fasse appel à moi pour ma compétence, ou parce que je peux apporter quelque chose dans tel groupe, plutôt que parce qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir un nombre certain de femmes sur la liste des gens qu'on présente, quel que soit le domaine. Alors, c'est toujours la question, est-ce qu'il y a une troisième voie entre soit se cantonner à répondre humblement, les yeux baissés, avec des tâches uniquement féminines, qui peuvent être très nobles et très importantes, mais uniquement féminines, ou bien est-ce qu'il faut forcément vitupérer, exiger, batailler, pour que tout soit identique entre hommes et femmes? Moi, je pense qu'il y a une troisième voie possible, hein. Je prétends qu'elle existe, d'autant plus qu'il se trouve que mon caractère, pour le meilleur et surtout pour le pire, me prédispose assez peu au silence discret. Donc il a bien fallu, notamment dans ce monde des médias, que j'essaye de trouver cette troisième voie. Alors, pour poser le sujet de ce soir, femme journaliste dans les coulisses de l'Église, j'ai essayé d'articuler ces trois éléments et j'ai d'abord voulu faire une enquête pour savoir, d'un point de vue journalistique, ce qu'on peut porter comme regard sur notre Église en particulier. Et alors, je ne vais pas vous refaire toutes les figures féminines de l'Ancien Testament, parce que nous avons une excellente bibliste sur KTO qui s'appelle Marie-Noëlle Tabu, qui ferait ça beaucoup mieux que moi, et j'ai aucune intention d'être une imposture dans ce domaine. Je ne serais absolument pas qualifiée. Mais tout de même, si on regarde la nouveauté qu'apporte Jésus, là aussi je ne vais pas la commenter, elle est immense dans l'histoire de la rédemption et du salut, mais dans toute cette nouveauté qu'apporte Jésus, il y a une nouveauté dans la relation aux femmes, parce qu'il est quand même absolument scandaleux. D'abord, il leur parle de manière très directe, y compris quand il ne les connaît pas, ce qui va tout à fait à rebours de la culture de son temps. Ça aurait fait, s'il y en avait eu, les manchettes des journaux. Il se laisse même bousculer, y compris dans la vision qu'il a de sa propre mission, et il laisse bousculer ses disciples. On peut penser à la rencontre avec la Cananéenne, on peut penser évidemment à la rencontre avec Marthe. On peut se souvenir, puisqu'on fêtait Marie-Madeleine hier, que c'est quand même des femmes qui d'abord annoncent la résurrection. Pour des journalistes, c'est important, vous voyez, ce côté « j'ai vu quelque chose et je suis chargée de le retransmettre ». Évidemment, si on prend tout le Nouveau Testament, et c'est pour ça que je vais devoir bifurquer assez rapidement, il y a des choses qui sont un peu plus embêtantes. Je pense en particulier à saint Paul. Pour nos oreilles d'aujourd'hui, il y a des petits passages un peu difficiles, surtout pour les femmes, puisqu'il leur demande d'une manière assez nette de bien vouloir se taire dans les assemblées. Je ne vous donne pas la référence, parce que je connais des messieurs qui seraient trop contents de la resservir. Donc on va au moins les obliger à la chercher. Mais d'un autre côté, il assume tout de même l'égale dignité des hommes et des femmes, notamment dans ce fameux morceau de la lettre aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, car vous tous, vous ne faites plus qu'un. Et Paul lui-même, il dialogue beaucoup avec les femmes, d'ailleurs ça fait partie des réflexions aujourd'hui dans l'Église, puisqu'il leur confie la responsabilité de certaines communautés. On le voit en lisant les épîtres et en lisant les actes. Alors, je l'ai dit, hein, je ne vais pas vous faire un cours de théologie, parce que ce n'est pas ma compétence, mais comme journaliste, porter ce regard-là sur l'histoire de notre Église, y compris dès ses tout premiers commencements, ça m'intéresse. Ça montre que dès le départ, il y a quelque chose d'assez moderne, si on j'ose cet anachronisme, dans cette façon de considérer la femme, bien sûr, comme épouse et mère, et je n'ai pas parlé du modèle de la Vierge Marie parce que c'est évident, mais il y a aussi, dites donc, par exemple, si je devais faire un portrait journalistique, et c'est évidemment pas un peu exagéré, mais si je devais faire un portrait journalistique de la Sainte Vierge, quelle ténacité, quelle audace, quelle persévérance, quelle capacité à aller contre les codes. Parce que nous, on peut entendre d'une manière un peu habituelle, hein, ce que lui dit l'ange et le fait qu'elle l'accueille. Mais enfin, après, il faut retourner voir ses parents, son village, et ça, on ne le raconte pas beaucoup dans les évangiles, mais enfin, il faut tout de même qu'elle ait une drôle de colonne vertébrale. Hein. Vraie personnalité. Et donc, le fait que comme ça, les femmes, la Vierge Marie, mais après, plein de modèles féminins dans les tout débuts de notre Église soient marquants comme des actrices aux côtés des autres. Moi, ça m'a déjà probablement intéressée depuis assez longtemps. Et puis après, on a dans l'histoire de l'Église des très grandes figures féminines. Le truc, c'est que l'histoire de l'Église, elle est généralement écrite par les messieurs, alors elle ne leur fait pas toujours beaucoup de place, mais si on s'arrête 5 minutes sur quelques-unes d'entre elles, à travers les siècles, on a quand même des figures magistrales. Au début, c'est surtout des mères, et elles travaillent beaucoup, et elles œuvrent beaucoup, y compris en changeant la face du monde, hein. Si on pense à la mère de Constantin, Sainte Hélène, si on pense, alors pour ce qui est en tout cas de la compréhension que nous avons de l'histoire du salut, à la mère de Saint Augustin, il y a des mères quand même qui jouent des rôles en fait quasiment de gouvernants. C'est assez fort. Mais après, il y a des femmes aussi qui vont se bagarrer. Je pense à Catherine de Sienne, il y a un merveilleux ouvrage disponible actuellement en librairie. Là aussi, drôle de personnalité. Le truc, c'est que dans la culture de l'Église, on a quand même créé une société masculine. On a créé une société masculine par le fait que c'est d'abord le clergé qui fait la structure de l'Église. Et probablement, c'est sûr, même les religieuses que le regard est parfois le plus difficile à accepter aujourd'hui, parce que la femme laïque peut être épouse et mère, ce qui est déjà quand même une belle vocation, et la religieuse est plus facilement considérée comme une servante. D'ailleurs, le pape François l'a dénoncé assez fortement il n'y a pas très longtemps. Et du coup, si je nous transpose immédiatement à ce qui se passe aujourd'hui, et que je vois, moi, en allant en permanence dans les diocèses, dans les paroisses, en suivant... comme le rappelait le père Landard, les voyages du pape, c'est cette transformation qui est petit à petit en train de se faire. Encore une fois, pas au sens où il y aurait un gâteau du pouvoir et qu'il faudrait le partager en donnant des parts plus ou moins grandes à tel ou tel. Je ne crois pas que ça se pose comme ça, mais je pense quand même qu'il y a des évolutions culturelles auxquelles on assiste. Dans la culture ecclésiale traditionnelle, il y a un pouvoir masculin et un service féminin. Alors, je vais faire hurler les prêtres, et c'est, je disais tout à l'heure, c'est toujours très difficile d'avoir du clergé dans l'assistance, puisque c'est un public assez exigeant, souvent difficile, rarement satisfait, mais en même temps, on les aime beaucoup. Et donc, il est toujours très aventureux de se risquer sur leur terrain. Bien sûr, le sacerdoce est un service, nous le savons tous. Néanmoins, dans la culture ordinaire de l'Église telle qu'elle s'est déployée au long des siècles, il y a quand même une compréhension de celui qui prend la décision, c'est celui qui est le ministre ordonné, et puis les laïcs, et notamment les femmes, s'assurent que l'autel soit correctement fleuri et le linge d'autel correctement repassé. Et encore une fois, je dis ça, en ayant parfaitement conscience qu'il s'agit de tâches tout à fait nobles et très nécessaires à la beauté de nos liturgies et à la vie de nos communautés. Donc c'est absolument pas péjoratif de mon côté. C'est juste la césure un peu trop évidente qui peut parfois être sujette à caution aujourd'hui. Si on prend quelques éléments très concrets qu'on observe sur le terrain, les 3/4 des laïcs qui ont une lettre de mission aujourd'hui dans les diocèses en France, ce sont des femmes. Elles peuvent être toutes sortes de missions, aumôniers de l'enseignement public, de l'enseignement privé, aumôniers d'hôpitaux, aumôniers de prison. 90,2% des catéchistes sont des femmes en France. Elles préparent aussi au baptême et au mariage, elles accompagnent les familles en deuil et beaucoup d'autres missions. Après, il y a encore des petites choses qui font sourire. Par exemple, au Vatican, vous voyez, il y a 371 femmes employés du Vatican. Ça fait un peu moins de 20% des collaborateurs. On se dit finalement c'est pas mal, parce que c'est logique qu'il y ait quand même beaucoup de clercs au Vatican. On ne peut pas trouver ça raisonnablement scandaleux. Donc 20% de femmes, c'est pas mal. Bon, après, en dehors de 5 d'entre elles, elles sont principalement employées au supermarché du Vatican, au bureau de poste et à l'accueil des boutiques dans les musées. Donc si j'étais professeur de collège, je mettrais dans la marge « doit pouvoir mieux faire ». Et de fait, les derniers papes s'y attellent. Par exemple, dans les dernières années, on a vu nommer deux sous-secrétaires de commission, de dicaster, donc les ministères du pape, si vous voulez. Il y a toujours un président, un secrétaire et un sous-secrétaire. Alors, ça n'est que sous-secrétaire, mais c'est quand même pas mal, hein, numéro 3 d'un grand ministère qui concerne le monde entier, c'est pas rien. C'est la particularité de l'administration de l'Église au Vatican, c'est que c'est un service pour l'Église dans le monde entier. Et on a désormais, pour la première fois, deux sous-secrétaires de dicaster qui sont des femmes. L'une pour la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, mais l'autre au dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. On a aussi, pour la première fois, une femme recteur ou rectrice. Je suis un peu fâchée avec les féminisations des titres aussi, il faut que je vous le dise. Mais on a une femme à la tête d'une université pontificale. C'est une première. Et on a aussi une femme à la tête de l'hôpital pédiatrique qui est le plus important centre de recherche en Europe, qui est le Bambino Gesù, qui dépend de l'Église. Et c'est une femme qui a été nommée il y a quelques temps. C'est aussi une femme qui dirige les musées du Vatican. Vous imaginez combien dans l'univers des musées ça peut faire rêver un conservateur de devenir conservateur des musées du Vatican. C'est une folie. Eh bien, c'est une femme qui s'appelle Barbara Giatta et qui occupe aujourd'hui cette fonction. Donc, c'est quelques exemples simplement pour vous dire que quand même, des choses qui étaient pas imaginables simplement parce qu'on ne se posait pas la question il y a quelques décennies, aujourd'hui, elles bougent. Et elles bougent pas seulement parce que c'est à la mode, elles bougent parce que, assez profondément, le pape lui-même dit que c'est une nécessité que d'avoir la variété des regards masculins et féminins dans la vie ordinaire de notre Église, et y compris dans la manière de comprendre les choses et de les administrer dans plusieurs domaines. Alors c'est vrai que du fait du droit canon, il y a un certain nombre de fonctions qui sont normalement tenues uniquement par des clercs, par des prêtres, par des évêques. Et peut-être même d'ailleurs, je parle toujours comme journaliste, on observe aujourd'hui dans certaines paroisses en France et aux États-Unis d'Amérique, une tendance chez le plus jeune clergé à retirer des présences féminines visibles dans la liturgie en particulier, qu'il s'agisse des lectures, par exemple, qu'il s'agisse de distribuer la communion. Et ce sont des questions qui sont posées. C'est ça qui rend les choses un peu difficiles, c'est que souvent elles sont posées en termes de revendications et donc de lutte de pouvoir. Je ne sais pas s'il y a un moyen de progresser dans la compréhension mutuelle en dehors de la lutte de pouvoir, mais je voudrais continuer à le croire. J'ai 4 frères et je sais d'expérience qu'on n'est jamais complètement à l'abri d'un réflexe de machisme primaire qui réapparaît comme ça de la nuit des temps, mais je sais aussi que ça peut être très très agréable d'exercer la complémentarité de nos savoir-faire, de nos intelligences, de notre rapport au monde, de nos manières de fonctionner. Et moi j'ai l'impression que ça change quand même un petit peu dans notre Église, en tout cas c'est ce que j'observe. Il y a 4 ans, il y avait eu une tribune publiée dans Le Monde de notre éminente consœur Lucetta Scarafia, qui est une des figure des femmes journalistes dans le monde catholique, qui a créé le supplément féminin de l'Osservatore Romano, même si c'est plus elle qui le dirige aujourd'hui. Et dans cette tribune, Lucetta Scarafia se scandalisait du fait qu'elle avait participé comme expert à la première session du synode pour la famille en 2014, et que aux pauses du matin, aux récréations, où il y a un café, les prélats ne la calculaient pas, comme disent les jeunes. C'est pas qu'ils étaient désagréables, c'est juste qu'elle était absolument invisible. Et donc elle avait écrit une tribune très, très fâchée de ça, en disant « mais j'avais plein de choses à leur apporter parce que mon expérience du monde et de la famille n'est pas la même que la leur, et c'était en réfléchissant ensemble qu'on pouvait faire avancer les choses ». Elle a écrit un livre qui est assez intéressant, que le pape François a d'ailleurs salué, qui s'appelle « Du dernier rang ». Les femmes et l'Église, qui est un livre qui a été publié, je crois, en 2015. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. D'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je voudrais m'arrêter un instant sur le rôle des papes, puisque moi j'ai la chance, et peut-être même la grâce, en tout cas c'est une source de grâce, de suivre les voyages des papes depuis 1996 et la visite de Jean-Paul II en France, Reims, Sainte-Anne-d'Auray, Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et donc depuis, d'une façon ou d'une autre, je les ai tous suivis et j'en ai suivi quasiment la moitié à bord de l'avion du pape avec le groupe des journalistes qui sont accrédités au Vatican et qui suivent chacun des voyages. Et je pense que les trois derniers papes, chacun à leur façon et avec leur personnalité, ont beaucoup fait évoluer de choses sur le sujet des femmes et de l'Église. Pas d'abord par leur enseignement, pas d'abord par des discours, même pas d'abord par la lettre aux femmes de Jean-Paul II ou par les déclarations récentes du pape François. Je crois que c'est d'abord par l'image, tout simplement. C'est-à-dire que depuis que Paul VI a entrepris des voyages pontificaux, simultanément les masses médias se sont multipliés, donc ces voyages des papes, ils sont retransmis à la télévision, ils sont vus dans le monde entier. Et donc la manière qu'a le pape d'accueillir, d'écouter lorsqu'il est accueilli par des femmes dans tel ou tel endroit, d'être simplement en relation, c'est une énorme pédagogie. Et si vous regardez les images des voyages de Paul VI et même du début du pontificat de Jean-Paul II, et si vous regardez les images des voyages d'aujourd'hui, vous vous apercevrez que ça y est, il y a désormais un reflet du monde tel qu'il est, avec des hommes, des femmes en responsabilité, suivant les lieux, suivant les temps, suivant les domaines, sans que ça choque quand le pape va visiter une prison, un hôpital pédiatrique, un lieu d'accueil caritatif. Il arrive fréquemment qu'il soit accueilli par une femme, mais aussi dans des universités, mais aussi dans plein d'autres endroits. Et ça, en fait, c'est une pédagogie de l'image qui fait que les choses deviennent naturelles et normales parce qu'on s'habitue à les voir. Et c'est vrai que moi, quand je regarde les archives vidéo des premiers voyages de Jean-Paul II, je me dis, mais il n'allait visiter que des prêtres, c'est quand même bizarre. Parce qu'on les montrait pas, on montrait pas les autres gens à l'image. C'est une question culturelle. Donc je pense que beaucoup de choses ont changé comme ça. À l'inverse, puisqu'on a annoncé des coulisses, il faut quand même que je vous fasse quelques révélations. À l'inverse, il y a parfois des erreurs tragiques. Alors, tragiques, personne n'en est mort, mais je pense que c'est vraiment tragique. J'ai souvenir, alors que le pape, on sait que Jean-Paul II avait tout à fait l'habitude de travailler avec des femmes, de réfléchir avec elles. Il avait une grande amie, la philosophe américaine Anna Teresa Timienecka, avec laquelle il a correspondu pendant des décennies. Enfin, très bien. Benoît XVI est quelqu'un de plus intérieur, de plus réservé dans sa personnalité, mais il a eu l'habitude toujours à l'université de travailler avec des femmes. Et donc, il est tout à fait à l'aise dans la relation. Mais quand il y a un voyage du pape, c'est pas le pape qui organise tout. Et donc il y a des choses qui peuvent passer à travers. C'est ainsi que Benoît XVI est allé, je ne saurais même pas vous dire en quelle année c'était, parce que j'aurais dû mieux réviser, mais je n'ai pas noté. Enfin, c'était dans le pontificat, entre 2005 et 2013. Il est allé consacrer l'autel de la Sagrada Familia. Il était temps, vu la date de début de la construction. Et donc, ça fait partie des liturgies que Benoît XVI aime beaucoup, parce que d'abord, quand on est évêque, et a fortiori évêque à Rome, on a très peu l'occasion de célébrer des belles liturgies, parce qu'en fait, lui, il était à la doctrine de la foi depuis 20 ans, et donc il fait surtout du travail de dossier. C'est un amoureux de la belle liturgie, et donc c'était probablement une très grande joie pour lui que de venir pour cet événement. Et le rituel de consécration d'autel est vraiment magnifique. Consécration d'une église, vraiment, si vous n'y avez jamais assisté, regardez des vidéos. Je trouve que c'est vraiment une liturgie profonde et magnifique. Donc tout allait bien. Dans cette liturgie, il est prévu qu'on fasse des tas de choses sur l'autel qu'on consacre. Donc on y met du Saint-Crème, on y fait brûler de l'encens. Autant dire qu'avant de pouvoir y célébrer la messe, il faut nettoyer. Et quelqu'un a eu l'idée, je ne sais pas comment c'est possible, de dire « on va faire un truc super moderne ». Puisque par définition, il n'y a que des hommes autour de l'autel dans la liturgie, on va faire intervenir les femmes. Vous me voyez venir, hein ? Ouais, c'était tragique. On a fait venir 4 petites sœurs espagnoles, mignonnes comme tout, pour nettoyer l'hôtel, pendant que ces messieurs en surplis se reculaient pour pas être salis. Et puis ensuite, elles ont disparu des écrans. C'était en mondovision. Comment est-ce qu'on peut expliquer après l'égale dignité ? Enfin, il faut une dose de capacité pédagogique un petit peu hors norme, hein, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils comprennent, c'est l'image. Moi, je dis souvent, on nous disait, nous, quand on était jeunes, qu'il fallait apprendre l'anglais, parce que c'est la langue internationale. Aujourd'hui, la langue internationale de mes enfants, c'est la vidéo. Et ils comprennent une vidéo en japonais et ils la passent à leur correspondant espagnol beaucoup mieux qu'avec n'importe quelle autre langue. Mais c'est une langue, elle a une grammaire, elle a une signification. Et donc ce qu'on dit dans l'image, ça dit une histoire. Quand on dit ça dans l'image, c'est plein de bonnes intentions derrière et je suis bien placée pour les imaginer. Mais c'est absolument tragique. Et j'étais en haut, il y a des tribunes pas tout à fait aussi larges que ces galeries, mais il y a une petite tribune cachée dans un des piliers de la Sagrada Familia. Et j'étais avec 50 journalistes du monde entier. Donc, on est peut-être, je sais pas, 25 nationalités. Il n'y a pas le monde entier, mais il y a tous les continents. Et au moment où les sœurs sont arrivées, où on a compris ce qui se passait, il y a eu... Alors que ce n'est pas des journalistes mal intentionnés, hein. Mais cette image était irrecevable. Voilà. Alors qu'encore une fois, je suis sûre qu'elle était pleine de bonnes intentions et que c'était un moyen inclusif pour les faire participer à ce grand moment. Donc vous voyez que c'est quand même pas simple. Il y a encore beaucoup à faire. C'est ce que dit la bibliste Anne-Marie Pelletier, qui sort un livre d'ailleurs à la rentrée qui s'appelle « L'Église des femmes avec des hommes » aux éditions du Cerf. Et Anne-Marie Pelletier fait partie de ces femmes qui réfléchissent à la place de la femme de l'Église sans la poser justement en termes de revendication du sacerdoce, dont elle dit que c'est en fait encore une dérive du cléricalisme. Au fond, vouloir être prêtre, c'est considérer qu'il n'y a que le prêtre dans l'Église, et donc c'est aussi probablement quelque chose qu'on peut travailler. Alors, j'ai parlé de Jean-Paul II et Benoît XVI, j'ai pas beaucoup parlé de François. Il n'est pas féministe, je ne vais pas vous mentir. Il est même assez nettement un mélange d'Italien et d'Argentin, vous voyez. Il est très, très, très reconnaissant à sa maman et aux femmes de sa famille, hein, qui lui ont transmis la foi, sa grand-mère notamment, qui lui ont transmis la foi. Il est très reconnaissant à toutes celles qui l'ont bien nourri et qui se sont occupées de son intendance. Non, blague à part, en fait, c'est lui, toutes les nominations dont je vous parlais précédemment, des femmes qui viennent de prendre des responsabilités au Vatican, c'est Benoît XVI et François qui les ont nommées. En fait, le pape François n'est pas du tout féministe, il a une vision que moi, si je me lâchais, si on n'était pas en public, je pourrais éventuellement qualifier de légèrement rétrograde, mais il est très à l'aise avec les femmes. Il est très naturel. Il a eu l'habitude de travailler avec des femmes et d'en avoir dans son entourage. Et ça, déjà, c'est un aspect très important. Et il est très conscient que c'est une question. Et que c'est une question qu'il faut travailler aujourd'hui dans l'Église, qui est une question capitale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il revient souvent sur ce sujet. Dans l'avion du pape, vous savez que François a instauré les conférences de presse de retour de ses voyages. Je dois dire que la première nous a moyennement réjouis parce que les journalistes vous disent jamais ça, hein, c'est formidable d'avoir une conférence de presse du pape. En vrai, c'est formidable. Hein. Simplement, la première fois que ça s'est passé, avec Benoît XVI, il y avait des temps convenus où on posait des questions, avec Jean-Paul II aussi. Mais François, nous l'avons découvert aux Journées mondiales de la jeunesse de Rio, qui était le premier grand événement depuis son élection au mois de mars. On se retrouve en juillet au Brésil. Les journées mondiales se passent avec déjà beaucoup, beaucoup de surprises. On découvre le naturel du pape qui fait faire des détours à sa voiture dans des quartiers qui n'étaient pas prévus par le cortège officiel, qui boit le maté qu'on lui tend. On a eu l'impression que le chef de la gendarmerie vaticane allait mourir sur place de désespoir. Et donc on découvre pendant 5 jours un pape extrêmement spontané, bien décidé à pas se laisser enfermer par toute la pesanteur que suppose la fonction et la sécurité notamment, et on suit tout ça tant bien que mal. On découvre ce pape qui va voir les pèlerins argentins dans une des églises de Rio et qui dit aux jeunes argentins, je vais donner la version polie parce qu'on est dans ce lieu, votre mission à vous, c'est de mettre le bazar dans l'église. On se dit, ah oui, ça va être, il va falloir être attentif, il va se passer des choses pendant ce pontificat. Mais après, on remonte dans l'avion. Et traditionnellement, quand on remonte dans l'avion, après un voyage, on a dormi 2 ou 3 heures par nuit pendant 5 jours. J'essaye pas de nous faire plaindre, hein, ça fait partie du job. Et on a la chance d'être vraiment tout près du pape. On vit des moments extraordinaires, on assiste à des choses fantastiques. Mais on est quand même bien fatigué quand ça se termine. Et donc, avec les deux précédents, le vol retour, traditionnellement, nous, journalistes, on était off. Donc on montait dans l'avion, on nous servait gentiment un petit verre, c'est souvent à l'Italia, donc un petit verre de Prosecco, et on s'endormait gentiment jusqu'à l'arrivée. Et puis là, il y avait vaguement une rumeur comme quoi peut-être le pape viendrait nous saluer au retour, mais enfin un truc pas vraiment sûr. Il y a souvent des rumeurs dans notre petit groupe, c'est normal, ça fait partie de la vie du Vatican. Et donc on décolle, et puis un quart d'heure après le décollage, on nous dit prova, 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 ce qui veut dire test. Ce sont les essais de micro. Et là on s'est dit, ah non, il ne vient pas du tout dire bonjour en fait. Si on fait des essais de micro, ce n'est pas juste pour dire bonjour. Et il a fait une conférence de presse à laquelle on ne s'attendait pas, et en répondant aux questions pendant 1h20. Donc c'était merveilleux. Et on tombait de sommeil et on a passé tout le reste du vol à scripter cet entretien. Mais dans ces entretiens, si vous les reprenez depuis 2013, le pape en a fait beaucoup. Il parle très souvent des femmes. Et parfois, ce qu'il dit n'est pas compris parce que justement, quand il dit qu'il faut que la théologie approfondisse le génie féminin, certains mouvements féministes entendent que c'est encore une manière de coincer la femme dans un rôle d'épouse et de mère et de ne pas aller chercher ce qu'elle peut aussi avoir comme participation dans d'autres registres. Moi, je ne crois pas que le pape François ait une pensée définitive sur le sujet. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il a compris que c'était un vrai sujet capital. Il a beaucoup d'amis, eux, qui le lui disent et qui lui disent il faut que l'Église catholique fasse bouger certaines lignes. Voilà, la femme doit être davantage écoutée dans l'Église, ça c'est François qui le dit. Il ne fait aucun doute que nous devons faire beaucoup plus en faveur des femmes. Elles doivent avoir une présence plus incisive dans l'Église. Je ne sais pas encore très bien ce que ça veut dire et je ne suis pas sûre que quiconque le sache. Mais il y a ça en tête. Et Mgr Paroline, qui est son premier ministre, dit lui aussi... Si nous n'écoutions pas avec attention la voix des femmes dans les grands moments décisionnels de la vie de l'Église, nous perdrions les apports décisifs et indispensables à l'élaboration de nouveaux projets. Donc ça augure plutôt bien de la suite. J'ai envie de dire qu'on est plutôt dans une période qui a l'air d'avancer dans la bonne direction. Dans mon expérience personnelle, c'est assez contrasté en réalité. Je vous racontais tout à l'heure l'exaspération de Lucetta Scarafia lors des pauses café au Vatican. Je dois dire que moi, j'ai jamais vécu cette expérience. C'est-à-dire que je connais des prélats du Saint-Siège qui sont plus ou moins misogynes. Je pourrais même dire, à condition de ne pas vous donner les noms, que dans la conférence des évêques de France, il y a des évêques plus ou moins misogynes. Mais ils sont toujours courtois et respectueux, et donc on n'a jamais le sentiment d'être absolument transparent. J'ajoute que quand on est journaliste, on est forcément quand même dans une relation un peu particulière. Donc peut-être certains voient-ils d'abord le relais potentiel du média et pas d'abord le genre de la personne qu'ils ont en face d'eux. Ça, c'est possible aussi. Mais j'ai un confrère marié qui a vécu longtemps au Vatican. Et sa femme me disait... qu'il lui arrivait des choses absolument formidables de traverser les jardins du Vatican et de croiser une éminence... qui connaissent très bien, parce que c'est un tout petit monde. Vous savez, il y a moins d'employés au Vatican, en tout, que dans la section des parcs et jardins de la mairie de Paris. Voilà, pour vous donner une échelle. Il y a peut-être trop de monde au parc et jardin. Après ça, je ne sais pas. Je ne suis pas compétente. Mais en tout cas, c'est donc un petit monde, c'est une petite société, donc évidemment, tout le monde se connaît. Et puis, globalement, vous savez, les éminents sont les voix, ils ont un rôle qui nous impressionne beaucoup dans les conclaves et dans les conseils du pape et ce genre de choses. Mais au quotidien, ce sont des gens charmants et tout à fait aussi abordables que monsieur le curé. Donc, elle croise comme ça, elle est avec son mari, elle croise une éminence dans les jardins du Vatican qu'elle connaît très bien. Et elle me dit, il a dit bonjour à mon mari. Il a commencé à lui parler, il a dit au revoir à mon mari, il a continué. Je lui ai dit, mais mes enfants avaient raison, ils ont regardé Harry Potter, la cape d'invisibilité existe. Mais elle marche que pour les femmes. Donc ça, c'est des situations qui en vrai, agacent. Hein. Je le dis de façon souriante, mais en vrai, ça agace. Moi, j'aime bien aussi, parce que vous l'avez peut-être deviné, j'ai parfois, probablement pour amuser mes frères, développé un petit sens de la provocation. Et il m'arrive souvent de faire des choses qui, il y a quelques années, maintenant c'est un peu fréquent, mais il y a quelques années, n'arrivaient pas à beaucoup de femmes, notamment d'aller dîner dans les séminaires. Et alors c'est vrai que quand vous allez dîner dans un séminaire, vous rentrez dans une salle à manger où, selon les cas, il y a 20, 30, 40, 60 garçons. Et immanquablement, les conversations s'arrêtent. Même quand ça a été annoncé la veille, même quand tout ça, quand je rentre dans la salle à manger, il y a un petit... Et alors, au début, j'étais très mal à l'aise avec ça. Et je me disais, c'est quand même difficile comme situation. Est-ce que je les dérange beaucoup d'être là? Et puis après tout, est-ce que c'est normal que 50 garçons soient si impressionnés par une femme qui rentre dans leur salle à manger? Enfin, je ne vais pas les manger, hein. Et donc j'ai décidé plutôt d'en rire, et donc aujourd'hui j'échange avec quelques amis formateurs dans les séminaires mon petit guide hôtelier. Vous savez, il y a des guides qui ont fait leur réputation comme ça sur les notations gastronomiques et puis sur la qualité des hôtels. Moi, j'ai la chance d'avoir un guide des séminaires de France, parce que je fais partie des rares femmes à avoir dormi dans presque tous. Alors voilà, mais je trouve que les choses ont beaucoup changé en 20 ans. Quand j'ai commencé, c'était vraiment compliqué. Je me souviens d'ailleurs que à un moment, je faisais un reportage dans un diocèse et je demande à l'évêque, je ne travaillais pas encore pour Catéo, mais pour Radio Notre-Dame, et je lui dis, mais moi, je vais venir faire ce reportage, c'est très bien, mais nous, on n'a pas de sous pour dormir à l'hôtel. Et c'est encore pareil aujourd'hui pour Catéo, on ne dort pas à l'hôtel, sauf si on va dans un pays au bout du monde où il n'y a vraiment pas le choix et il n'y a pas de présence d'église, mais sinon, on essaye toujours de trouver une communauté pour dormir, et parfois quand c'est en ville plutôt que des communautés, c'est le séminaire. Et je me souviens qu'il y a 20 ans, il y a un évêque qui m'a dit oui, on a des chambres d'invités, mais il n'y a jamais eu de dames. Mais c'est dans une autre aile du bâtiment, je ne sais pas si c'est grave, il faut que je réfléchisse. Et il m'a rappelé le lendemain en disant non, c'est pas possible, on va vous réserver un hôtel. Et je peux comprendre, je dis ça en souriant, je peux comprendre qu'il faille être vigilant. Je ne crois pas qu'on doive céder à toutes les sirènes de l'époque qui consistent à dire que tout est dans tout et réciproquement, que tout est relatif. Je trouve normal qu'on protège les séminaristes, au moins pendant une période de leur formation, mais je trouverais normal aussi, surtout pour la suite de leur vie, qu'ils soient plus régulièrement en contact avec des femmes et que ce soit plus normal dans leur entourage. Et il y a beaucoup, beaucoup de diocèses et quelques séminaires qui ont déjà entrepris ce virage-là. Mais je pense que c'est la direction dans laquelle il nous reste encore un peu de travail. Voilà. J'ajouterai encore une anecdote de métier. Comme journaliste, on suit dans ce domaine très spécialisé. Vous savez, j'ai des confrères qui font du journalisme sportif, ils connaissent les noms de tous les athlètes dans tous les sports. Moi, je dis parfois que je fais de l'entomologie ecclésiale et que mon métier, c'est de savoir exactement quelles sont les questions qui se posent, quelles sont les visions pastorales ici ou là, quelles sont les nouveautés aussi dans les réflexions, quelle manière d'habiter aujourd'hui le territoire qui est clairement pas la même qu'il y a 50 ans. Et donc, je fais ce travail-là. Et ce travail, il nécessite, comme tout journaliste, d'aller rencontrer ceux dont je parle, donc y compris et même en grande majorité le clergé, et y compris nos pères évêques. Et si je prends l'exemple de la conférence des évêques de France, j'ai souvenir il y a quelques années, alors maintenant j'ai passé l'âge canonique donc les choses sont beaucoup plus simples, j'ai souvenir qu'à 25 ans, quand j'allais inviter un évêque à dîner pour discuter, hein, rassurez-vous, Mais il y avait quand même une petite faille spatio-temporelle, et j'entendais dans la tête de mon vis-à-vis « tous les deux ?» Ce qui, évidemment, n'arrive pas à mes confrères masculins. Mais vous voyez, c'est idiot, mais ça n'allait pas tant que ça. Pour quelques-uns d'entre eux, c'était de dire « mais alors on va aller au restaurant tous les deux, tous les copains vont me voir, c'est pas une bonne idée. Non, à 4 heures, vous avez du temps. » Et sans blague, c'était compliqué, parce que les collègues masculins, honnêtement, le travail des journalistes à Lourdes, c'est beaucoup, beaucoup déjeuner et dîner avec des évêques pour comprendre quelles questions ils se posent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans leur diocèse. C'est pas pour leur arracher des secrets sur l'Assemblée, en réalité, pas du tout. C'est vraiment pour sentir ce qui se vit dans leur territoire et dans leur vision. Et bah, c'était beaucoup plus facile pour les confrères masculins que pour moi. Alors, je dis ça il y a quelques années, 20 ans plus tard, c'est devenu très naturel, et j'ai quelques consoeurs de ma génération, comme Claire Le Segretin, que vous entendrez dans quelques mardis, mais aussi des beaucoup plus jeunes, comme Marie-Lucille Kubacki, comme Céline Oyot et d'autres, qui se font un nom dans ce journalisme spécialisé en information religieuse et qui n'ont plus tellement ces difficultés, ces préventions n'existent plus tellement aujourd'hui. Donc vous voyez, en l'espace de 2 décennies, ça a quand même beaucoup changé. Et puis j'ajouterais qu'une expérience personnelle, c'est que moi j'ai été pendant plusieurs années, nous avons été avec mon mari très investis dans le conseil pastoral de notre paroisse et dans la préparation au mariage, et qu'au conseil pastoral, comme ça se fait souvent, parce que avec le temps il faut bien que tout le monde fasse des choses, j'ai fini par être vice-présidente du conseil pastoral pendant 4 ans, et moi j'ai souvenir d'une merveilleuse collaboration avec mon curé, qui a compris, parce que je dis les choses de manière assez franche et nette, que je n'avais pas l'intention d'essayer d'être curé à la place du curé, mais qu'en revanche, il y avait des choses que je faisais mieux. C'est un peu ce que je dis dans mon métier aussi. Vous voyez, souvent, quand on parle de catéo, les gens disent « Mais alors, c'est qui l'évêque qui décide ?» Pardon. Oui, parce que ce qu'on met dans la télé, enfin les programmes, tout ça, c'est pastoral quand même. Oui. Et alors, c'est qui l'évêque qui choisit ? Ben, c'est moi. Alors, certains sont très déçus. Et je leur dis, en fait, souvent, cette question, c'est d'ailleurs souvent une question de laïc. C'est une manière de souligner que c'est pas tellement un problème, à mon sens, entre le clergé et les femmes. C'est une question de la complémentarité entre les clercs et les laïcs. Moi, je prétends que je sais faire une télévision catholique beaucoup mieux que les évêques. Pas parce que je suis une femme, parce que je suis formée pour ça, parce que c'est mon expérience et mon expertise de savoir faire ça, et puis parce que j'ai la liberté de le faire, et que si un évêque dirigeait une télévision catholique, il aurait en fait pas du tout la même liberté que moi. Parce que comme évêque, il engagerait l'institution ecclésiale d'une manière tout à fait différente. Après tout, si demain je fais une bêtise, on pourra toujours d'une part me remplacer, mais d'autre part dire que bah voilà, c'est un média qui s'est trompé, c'est pas l'Église, c'est une équipe de médias. Je pense aussi que je suis mieux protégée que des prêtres ou des évêques pour faire ce métier. Simplement parce que quand je rentre à la maison, j'ai la joie d'avoir depuis presque 25 ans un mari délicieux, mais qui a perdu une partie de ses illusions, je dois bien me rendre à l'évidence, depuis 25 ans, et 2 adolescentes charmantes que ma notoriété de sortie de messe n'impressionne pas du tout. Et donc ça permet aussi de se vacciner contre un certain nombre de tentations que le média peut donner. Parce que ça reste, même si ça n'est que catéo, la télévision est un instrument de pouvoir extrêmement fort. Il vous renvoie à votre affectivité aussi, parce que quand vous commencez à croiser des gens qui vous disent « Ah, je vous ai vu hier soir, c'était formidable », ben, pour être honnête, on est content, hein. Et quand on vous arrête ici ou là, ben, tout de suite, on peut assez vite croire que c'est soi qui est important et pas ce qu'on était en train de faire ou l'invité qu'on interrogeait ou l'événement qu'on accompagnait. Donc c'est un point de vigilance, mais les adolescentes à la maison nous aident bien à garder les pieds sur terre. Et au fond, Pour conclure, je dirais bien que il y a plein de choses qui marchent pas très bien dans notre Église, et on pourrait en ajouter beaucoup aux quelques exemples anecdotiques que j'ai donnés. Notamment dans le rapport homme-femme, on a des progrès à faire. Moi, je ne crois pas que ça doive se vivre nécessairement dans l'opposition. Je crois surtout que notre Église n'est pas un club de parfaits. Ça tombe bien, parce que c'est en tout cas ce qui, moi, me permet d'en faire partie. Et donc, ça nous laisse toute perspective de pouvoir nous améliorer ensemble. En réalité, les coulisses de l'Église, j'aurais dû vous parler de tout à fait autre chose que ce que je viens de vous raconter. Les vraies coulisses de l'Église, c'est au quotidien, vous tous, et des dizaines de milliers de gens comme vous, et des millions à travers le monde, qui essayent de vivre en chrétien, et donc qui essayent d'aimer et d'aider leurs prochains autour d'eux, là où ils sont et avec ce qu'ils sont capables de faire. Ça, en général, on n'en parle pas beaucoup, ça fait pas de bruit. On dit souvent, d'ailleurs, chez les cathos, le bien ne fait pas de bruit, mais nous, sur Cathéo, on essaye de l'amplifier un peu. Voilà, je vous remercie.
Femmes et journalistes dans les coulisses de l'Église, vous venez de suivre l'intervention de Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de la chaîne de télévision catholique Cathéo TV, intervention enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz le 23 juillet 2019.
Regard de femmes, vous venez de suivre une conférence enregistrée en l'église de Saint-Jean-de-Luz lors des mardis de l'été 2019, un cycle de conférences proposé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan.